Le journal avec Claire Flochel.
Bonjour à toutes et à tous. Une fin d'année en noir pour l'Égypte. 9 personnes ont été tuées vendredi dans la banlieue sud du Caire lors d'une nouvelle attaque contre la minorité chrétienne dans le pays. La communauté copte se sent démunie et elle est en colère. Explication à suivre avec Aurélien Akar. Nouvelle journée de manifestation en Iran. Après 2 jours de protestations contre la vie chère à travers le pays, contre l'inflation et le chômage, des dizaines de milliers de partisans du régime iranien rassemblés aujourd'hui à Téhéran. Précision de David Ravier dans un instant. L'embargo visant la Corée du Nord violé par Moscou. À 3 reprises en octobre et novembre dernier, des navires russes ont fourni des produits pétroliers à Pyongyang. Un ravitaillement en totale violation des mesures votées par les Nations Unies. C'est ce que nous expliquera Nabila Hamel. En France, la grippe est virulente quasiment partout. Le nombre de cas augmente rapidement selon un urgentiste d'un hôpital parisien. Enfin, à 12h40, la bulle économique et Marie Vienneau. Le groupe État islamique revendique la dernière attaque contre les chrétiens coptes d'Égypte. Hier, 9 personnes sont mortes dans une église de cette communauté dans la banlieue sud du Caire. Attaque perpétrée par un djihadiste lourdement armé qui a ouvert le feu et qui avait l'intention de faire exploser une bombe. Il a été blessé et arrêté. Un nouvel attentat, Aurélien Akar, qui suscite la colère de la communauté copte visée à plusieurs reprises par Daesh ces derniers mois.
Des attentats qui ont fait plus de 100 morts et de très nombreux blessés en un an au Caire déjà, mais aussi à Alexandrie et à Tanta. Des attaques qui jusque-là n'avaient pas remis en cause la loyauté des coptes envers le chef de l'État égyptien, le maréchal Al-Sissi. Mais hier, lors des funérailles collectives des victimes de ce nouvel attentat, l'évêque de la basilique d'Elwan au sud du Caire a laissé filtrer plus de colère que d'habitude.
Il faut qu'il y ait une prise de position décisive face à ce feuilleton de terreur. Le seul rôle de l'Église est la prière et le soutien aux fidèles, un rôle que l'Église ne cherchera pas à dépasser. Mais il y a d'autres institutions chargées de l'enseignement, des médias et du renouvellement de la pensée religieuse qui pourraient faire plus. D'autres pays de la région ont progressé, alors qu'en Égypte, nous en sommes encore à tuer les gens. Prenez garde, le danger ne concerne pas uniquement les Coptes, c'est tout le pays qui risque d'être détruit.
Une référence à l'attaque la plus meurtrière de l'année en Égypte, l'attentat perpétré 7 fois contre une mosquée du Nord Sinaï qui avait fait plus de 230 morts le mois dernier. Et un message donc destiné au pouvoir égyptien, accusé de ne pas en faire suffisamment pour protéger les Coptes face au terrorisme islamiste.
Aurélien Akar, l'État islamique qui a également revendiqué par le biais de son agence de propagande Hamak, l'attaque à l'explosif qui a fait 13 blessés mercredi dans un supermarché de Saint-Pétersbourg en Russie. Victoire confirmée pour George Weah, élu président du Liberia. Hier soir, la commission électorale nationale de Monrovia a certifié les résultats du scrutin. L'ex-footballeur, ancien attaquant du PSG, de l'AS Monaco ou encore du Milan AC a recueilli 61,5% des suffrages. Un vote qui ouvre la voie à une véritable alternance démocratique. La première transition de pouvoir pacifique depuis plus de 70 ans dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Le pouvoir iranien n'avait pas été confronté à de telles manifestations depuis 2009. Des centaines de personnes se sont rassemblées hier dans la deuxième ville du pays, Mashhad, contre le chômage et la flambée des prix. Les autorités ont aussitôt réagi en faisant arrêter plus de 50 personnes. Et aujourd'hui, David Ravier, le gouvernement organise des rassemblements partout dans le pays pour masquer la contestation naissante.
Oui, puisqu'à l'heure actuelle, le soulèvement populaire en Iran s'étend sur plusieurs fronts. D'un côté, la majorité des contestataires veulent exprimer leur mécontentement face à la hausse récente du chômage et du prix de certaines denrées alimentaires. Ces dernières semaines, le gouvernement a annoncé l'abattage de millions de poulets dans le pays suite à des suspicions de grippe aviaire. Conséquence, le prix des œufs et des aliments transformés à base d'œufs ont doublé, ce qui explique en partie la grogne des manifestants. D'un autre côté, les manifestations de ces derniers jours ont également vu l'émergence de slogans hostiles à la politique menée par le président Hassan Rouhani et par l'ayatollah Khamenei. Certaines personnes descendues dans la rue critiquent les décisions prises sur le plan économique par le président, tout comme les déclarations de l'ayatollah sur les autres pays du Moyen-Orient. Après des manifestations qui ont conduit à l'arrestation de 52 opposants jeudi à Mashhad, le deuxième poumon du pays situé dans le nord-est de l'Iran, d'autres mouvements, pro-gouvernementaux cette fois, doivent avoir lieu cet après-midi à Téhéran ainsi que dans 1200 autres villes du pays. Ces rassemblements que le gouvernement a voulu en nombre doivent réunir des dizaines de milliers de partisans du régime dans le but de surpasser numériquement ses opposants et de faire oublier la contestation de ces derniers jours.
Merci David Ravier. J'ajoute que le gouvernement demande aux Iraniens de ne pas participer appelés à ces rassemblements, je cite, « illégaux ». En Syrie, l'armée de Bachar al-Assad a affronté hier des djihadistes et des rebelles aux portes de la province d'Idleb au nord-ouest. Seule province a échappé entièrement au contrôle du régime. Il y a eu des dizaines de morts. Et puis toujours en Syrie, mais plus à l'est, deux fosses communes ont été découvertes dans la province de Raqqa. Elles contiennent des dizaines de corps de civils et de militaires tués par le groupe État islamique. De nouvelles révélations aujourd'hui sur la fourniture de carburant et de produits pétrochimiques à la Corée du Nord. Ces produits sont vitaux pour le régime de Pyongyang, tant pour faire tourner son économie que pour poursuivre le développement de ses programmes balistiques et nucléaires. Mais Nabila Hamel, les approvisionnements signalés aujourd'hui se sont faits clandestinement via des bateaux russes en violation des sanctions imposées par l'ONU.
Deux sources sécuritaires européennes sont à l'origine de ces révélations. Selon elles, des bateaux russes ont effectué des transferts de produits pétrochimiques de navire à navire au large des côtes de l'extrême-orient russe. Ces sources se basent entre autres sur des images satellitaires qui auraient capté trois opérations de ce type entre les mois d'octobre et de novembre. L'entreprise propriétaire du pétrolier qui aurait été utilisée pour cette contrebande a réfuté ces informations. Côté officiel, Moscou refuse de s'exprimer. Pour le moment, en tout cas, une des sources sécuritaires européennes qui fait cette révélation estime qu'à ce stade, rien ne prouve une implication du gouvernement russe dans ces transferts. Ces derniers jours, c'est surtout la Chine qui était accusée de livrer clandestinement du carburant à son voisin, prompte à réagir. Le président américain Donald Trump avait d'ailleurs adressé par tweet à Pékin le message « Pris la main dans le sac ». La Chine a rejeté catégoriquement ces allégations et accuse à son tour le président américain de faire du battage sans raison, ce qui, à ses yeux, ne contribue pas au renforcement de la confiance et de la coopération mutuelle. En tout cas, ce matin, la Corée du Sud a fait également une révélation qui pourrait gêner la Chine. Elle affirme avoir arraisonné le 24 novembre un navire hongkongais qui avait transféré des produits pétroliers sur un bateau nord-coréen.
Une précision signée Nabila Hamel. Il n'y aura plus ce soir de renforts policiers en Catalogne. Madrid poursuit sa volonté d'apaisement dans cette province aux velléités indépendantistes. 10 000 hommes avaient été déployés depuis le référendum d'indépendance. Hier, le Premier ministre Mariano Rajoy est revenu sur les élections régionales anticipées, scrutin de la semaine dernière qui a confirmé une majorité d'élus indépendantistes au Parlement catalan. Mariano Rajoy estime absurde que le leader indépendantiste Carles Puigdemont prétende être président d'une région en vivant à l'étranger. Il est toujours en exil en Belgique. Il risque une arrestation s'il rentre en Espagne. Ne rien laisser au hasard. Journée de préparation avant les traditionnels vœux présidentiels pour Emmanuel Macron. De retour à l'Élysée après quelques jours passés dans les Pyrénées. Mais il sera de nouveau sous l'œil des caméras dès cet après-midi. Le chef de l'État signera la loi de finances pour 2018, celle du financement de la sécurité sociale et enfin celle mettant fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Emmanuel Macron reprend donc une nouvelle fois pour cet exercice les codes de la communication présidentielle américaine. Une seule région de France est épargnée par l'épidémie de grippe. Il s'agit de la Corse. Toutes les autres en métropole sont concernées, l'Île-de-France en particulier. La PHP, Assistance publique hôpitaux de Paris, a ainsi déclenché le niveau 2 du plan épidémie hivernale. C'est le cas notamment à l'hôpital européen Georges Pompidou. Philippe Juvin en est le chef des urgences. Pour lui, la grippe est plus sévère cette année.
Alors, ce qui est certain, c'est que le pic d'épidémie n'est pas atteint. Et quand on compare à l'année dernière, on a déjà atteint le même nombre, qu'on a même d'ailleurs un peu dépassé que l'année dernière, au pic. Mais cette année, on n'est pas au pic. Donc, évidemment, nous aurons plus de patients cette année que l'année dernière. Il n'y a rien d'exceptionnel à avoir une épidémie de grippe en hiver. En revanche, cette année, ce qui est assez exceptionnel, c'est la montée très rapide du nombre de cas, avec, semble-t-il, mais ça, il faudra l'analyser dans quelques semaines, quand le pic sera passé, avec, semble-t-il, beaucoup de cas graves qui vont en réanimation. Chaque année, il y a des patients qui vont en réanimation suite à la grippe. Cette année, on a l'impression qu'il y en a un peu plus. Depuis le début de l'épidémie, au plan national, il y a plus de 200 personnes qu'on a dû admettre en réanimation.
Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou de Paris. Midi 40 sur France Culture.
La bulle économique. Marie Viennot.
Et aujourd'hui, Marie, la bulle économique, se demande qui veut encore payer des impôts après 2017.
Bonjour, une bulle fiscale pour cette fin d'année. 2017 aura été l'année des impôts promis, supprimés, optimisés, régularisés, baissés. 2017, l'année où a été entérinée la fin de l'impôt sur la fortune. 2017, l'année où le président a expliqué qu'il fallait baisser les impôts des premiers de cordée, ceux qui créent les richesses, la croissance et partageront ses fruits. Mais en même temps...
Fuite, fuite, fini les impôts, ouh ouh, fini les impôts, fuite, fuite de mes capitaux.
2017, c'est aussi l'année des Paradise Papers, l'année où l'on a appris plus en détail comment ces premiers de cordée, entreprises ou particuliers, ne rechignaient pas à la dépense pour optimiser au maximum leurs impôts, quitte à frôler l'abus de droit, quitte à justifier et propager une idée vieille comme le monde, celle du non-consentement à l'impôt. Au Moyen-Âge, ne pas payer ses impôts pouvait être une stratégie de résistance contre le roi. Au XIXe siècle, David Thoreau, apôtre de la désobéissance civile, refusa de payer ses impôts aux États-Unis parce que s'y pratiquait toujours l'esclavage. En Inde, Gandhi a démarré son action non violente par la marche du sel qui incitait les Indiens à ne plus payer l'impôt sur le sel aux Anglais. Ne pas consentir à l'impôt, ce n'est donc pas seulement refuser de contribuer aux dépenses communes et à la solidarité. Historiquement, c'est aussi s'opposer à la toute-puissance d'un État. Voilà pourquoi le tiers-État a demandé à ce que le consentement à l'impôt soit un principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ce consentement s'exprime chaque année par le vote des lois de finances. Mais les parlementaires et le gouvernement ne font pas ce qu'ils veulent. Il faut respecter la Constitution et notamment le principe de proportionnalité de l'impôt. La taxe sur les 75% promise par François Hollande n'a ainsi jamais vu le jour. Depuis 2010 même, le Conseil constitutionnel peut être aussi saisi de questions prioritaires de constitutionnalité QPC sur les sujets fiscaux. Régulièrement donc, des mesures votées et appliquées sont censurées. 2017, année faste, l'État a dû rembourser 10 milliards d'euros aux entreprises pour une taxe sur les dividendes jugée inconstitutionnelle. Vous voyez, il est possible légalement de ne pas consentir à l'impôt et même de changer la norme fiscale. Mais tout le monde n'est pas égal face à cette possibilité. Et c'est là que le bât blesse, car cela coûte de l'argent de payer moins d'impôts. Les contribuables peuvent donc se diviser en deux catégories, ceux qui ont les moyens de se payer un avocat fiscaliste et ceux qui ne les ont pas, ceux qui sont salariés et seront prélevés à la source et ceux qui auront toujours des moyens de moyenner.
Bonjour, je suis fondateur du blog Esprit Riche et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous trois trucs pour réduire votre imposition, voire même ne pas payer d'impôts.
Des conseils, on peut en avoir gratuitement maintenant grâce à Internet. Ne soyez pas choqués de voir fleurir ces vidéos, le délit d'incitation à la haine fiscale n'existe pas encore. Les impôts, ce n'est pas de la morale, c'est du droit et tout le droit, explique la chef du contrôle fiscal en France. S'il est possible de sanctionner ceux qui conseillent pour complicité de fraude fiscale, il faut que la fraude soit avérée. Mais le droit, cela se change aussi et c'est là que la politique intervient. La Commission européenne réfléchit en ce moment à une directive pour obliger les intermédiaires qui conçoivent les montages fiscaux agressifs à les publier. On nous promet aussi un plan contre la fraude fiscale en France au début de l'année. Effet d'annonce ou vraie volonté, nous verrons. Mais sauf à fournir une aide juridictionnelle à l'optimisation fiscale, ce qui serait une perversion totale, il faudra bien un jour, au nom de l'égalité, s'intéresser sérieusement à ceux qui font commerce des...
Fuite, fuite, paradis fiscaux, coucou, paradis fiscaux.
La bulle économique de Marie Viennot est à retrouver avec des suppléments sur notre site internet franceculture.fr. La météo, pour finir, début de week-end perturbé. Le vent a soufflé fort la nuit dernière sur la Normandie, mais les coupures de courant sont terminées. Un peu moins de 700 clients étaient encore privés d'électricité cette nuit dans la Manche. Aujourd'hui, la journée est globalement nuageuse et pluvieuse. Les pluies sont plus régulières sur l'est du pays, avec de bonnes chutes de neige sur les Alpes du Nord. Une vigilance orange est d'ailleurs en cours sur 4 départements, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et les Hautes-Alpes. Cet après-midi, de belles éclaircies reviennent sur la frange sud du pays. Le redoux se généralise, les températures sont comprises entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de cette édition. Ce journal a été préparé avec M. Le Chili. À la technique, c'était Inès De Bruyne.